4 degrés à Strasbourg et à Dijon cet après-midi, 8 à Belfort, 9 degrés à Dunkerque, 11 à Lyon, 12 à Brest, Bordeaux, Rennes et Angers, 13 degrés à Paris, 14 à Nice et au Mans, 15 à Biarritz, 16 à Tarbes et 17 degrés à Pau.
Merci Marion, soyez les bienvenus avec Europe 1. Bon réveil, voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
Ne pas se laisser impressionner. C'est la réponse d'Emmanuel Macron aux attaques de Donald Trump. Le président américain attendu aujourd'hui au Forum économique de Davos et qui a de nouveau taclé son homologue français hier soir. Vous allez l'entendre. Donald Trump qui menace la France de nouveaux droits de douane. 10 à 25% supplémentaires si Paris continue à s'opposer à son projet d'annexion du Groenland. 200% sur les vins et les champagnes français si Emmanuel Macron ne rejoint pas le conseil de la paix de Donald Trump. Des surtaxes qui seraient catastrophiques pour notre économie. Précision à suivre. Dans ce journal également, la reprise des auditions de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. La tension persiste entre les membres du bureau. Le rapporteur général Charles Alloncle assure qu'on ne le bâillonnera pas, pour le citer. Et puis au Nigeria, encore des chrétiens enlevés. 160 personnes kidnappées par des hommes armés. Ça s'est passé dimanche. Récit Europe 1 dans un instant. Il est 5h, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Emmanuel Macron, debout face à ceux qui cherchent ouvertement à affaiblir et à subordonner l'Europe, ce sont ses mots. Le chef de l'État s'est exprimé hier à la tribune du Forum économique de Davos, en Suisse, et il n'a pas manqué de réagir aux attaques verbales de Donald Trump, ainsi qu'aux menaces économiques du président américain. Pour le locataire de l'Élysée, pas question d'accepter la loi du plus fort ou de céder à la panique, Arthur Delaborde.
Sans jamais le nommer, Emmanuel Macron répond à Donald Trump et s'efforce de garder son calme, notamment face à la menace du président américain d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et spiritueux français.
Il ne faut pas se laisser impressionner. On doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus.
Dans un contexte de forte tension entre Washington et l'Europe autour des ambitions américaines sur le Groenland, il réaffirme sa solidarité avec le Danemark.
Nous, on a un allié, un ami, qui est le Danemark. Quand il est attaqué, c'est normal qu'on soit là. On l'est dans un cadre totalement connu, totalement sincère, totalement transparent, contre personne.
Régulièrement moqué par Donald Trump, qui est allé jusqu'à publier un message privé sur les réseaux sociaux, le président français laisse planer le doute lorsqu'on lui demande si son homologue américain est toujours un allié.
Ce sont pas tout à fait les comportements qui vont avec, en effet, cette qualification.
Donald Trump est attendu aujourd'hui à Davos. Emmanuel Macron, lui, est reparti hier soir sans modifier son agenda en vue d'une éventuelle rencontre.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et on l'apprend à l'instant, l'avion de Donald Trump qui devait l'amener à ce forum économique de Davos en Suisse a fait demi-tour après un problème électrique mineur selon la Maison-Blanche. On ne sait pas pour l'heure si cela l'empêche de se rendre sur place.
Et si elle a bien lieu, Emmanuel Macron ne devrait pas participer à la réunion annoncée par Donald Trump sur le Groenland, en marge donc de ce Forum économique mondial de Davos.
Avant de partir pour la Suisse, ou en tout cas de tenter de rejoindre la Suisse, et alors qu'il célébrait hier la première année de son deuxième mandat, le président américain a tenu une conférence de presse hier soir, l'occasion de réitérer ses menaces d'annexion du Groenland. « Vous allez voir jusqu'où je peux aller », a-t-il déclaré aux journalistes, et de tacler à nouveau le président français. Écoutez.
Emmanuel ne sera plus là pour très longtemps. Il aura peu de longévité. C'est un ami à moi, c'est quelqu'un de bien, je l'aime bien, mais il n'est plus là pour très longtemps. J'ai des rendez-vous avec des gens qui sont directement impliqués sur la question du Groenland, donc on verra ce qu'il se passera. J'ai d'ailleurs beaucoup de rendez-vous à propos du Groenland. Vous savez, je vais à Davos et nous avons beaucoup de réunions prévues là-bas sur ce sujet. Et je pense que ça va bien se passer.
Alors, il n'y a pas que la question du Groenland qui tend les relations entre la France et les États-Unis. Donald Trump a également très mal pris le refus de Paris de rejoindre son Conseil de la paix.
Dans les deux cas, sa réponse est la même. Le locataire de la Maison-Blanche menace de renforcer les droits de douane sur les importations françaises ou européennes. 10% au 1er février, 25% au 1er juin si les Européens et notamment la France s'opposent à son projet groenlandais. 200% sur le vin et le champagne si Emmanuel Macron refuse de participer à son Conseil de la paix, des menaces qui font trembler les acteurs économiques français, d'autant que certains secteurs sont déjà à la peine avec les droits de douane en vigueur, Barthélémy Philippe.
Oui, les cosmétiques et les vins et spiritueux dont les exportations vers les États-Unis ont baissé de 15% entre 2024 et 2025. Autant dire que taxer les vins et champagnes à 200% reviendrait presque à fermer le marché américain à ces produits. Dans une moindre mesure, des surtaxes de 10 puis 25% entraîneraient une lourde chute des exportations pour ces secteurs. L'impact des droits de douane est déjà estimé à 4 milliards d'euros, mais il n'y a pas de quoi faire plier l'économie française, relativise l'économiste Sylvain Bersinger.
Ça risque d'amputer la croissance peut-être de 0,1 point. On ne va pas tomber en récession à cause de ça. Les États-Unis sont un marché important, mais pas un marché absolument déterminant.
Malgré les surtaxes en vigueur, plusieurs filières d'exportation progressent et pourraient résister à de nouvelles vagues douanières. L'aéronautique, mais aussi d'autres produits dont l'économie américaine a besoin.
La chimie, l'électronique, les machines-outils, des produits très spécifiques. Quand vous avez besoin d'une machine dans l'usine que vous êtes en train de construire, vous l'achetez même s'il y a un droit de douane supplémentaire.
En 2024, les exportations françaises aux États-Unis ont atteint près de 50 milliards d'euros, un peu moins de 10% du montant total des exportations tricolores, 580 milliards d'euros.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Notez qu'hier après-midi, le Parlement européen a gelé la ratification de l'accord commercial avec les États-Unis conclu à l'été 2025 en réaction à ces nouvelles menaces douanières de Donald Trump.
Il est 5h05, vous écoutez Europe 1, bonjour.
La commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public a repris ses travaux hier après un mois d'interruption.
Oui, par l'audition du comité d'éthique de Radio France. Mais la tension au sein du bureau de cette commission n'est pas retombée. Son rapporteur Charles Alloncle, rapporteur général UDR, a réuni une conférence de presse hier pour défendre sa façon de travailler. Il reste concentré, Maïalène Trémollet, avec un seul objectif, achever son travail dans les temps.
Une course contre la montre, c'est ainsi que Charles Alloncle illustre les semaines qui lui restent pour mener à son terme la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Après une interruption d'un mois, pas question pour le rapporteur de lâcher du lest sur les auditions.
Mais le travail est encore loin d'être achevé. Je ne céderai à aucune pression. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais rendu de compte qu'il faut que la représentation nationale passe son chemin ou baisse les yeux.
En balayant les critiques sur son mode de gestion, l'élu UDR préfère pointer du doigt l'absence totale de coopération et des entraves régulières à son travail de la part des représentants de France Télévisions et Radio France.
Près de 2 mois après ma demande de documents, France Télévisions ne m'en avait envoyé moins de 1/10.
Une nouvelle phase d'audition qui s'ouvre néanmoins sur une petite victoire de Charles Alloncle. Patrick Sébastien, figure historique et populaire de France Télévisions, qui souhaitait lui-même s'exprimer sur les dérives de l'audiovisuel public, sera bien auditionné, malgré un premier refus de Jérémy Patrier-Lettus, président de la commission d'enquête, revenu finalement sur sa décision.
Maïalène Trémollet. Dans l'actualité internationale, l'Espagne et une tragique loi des séries. Nouvel accident ferroviaire hier soir à Barcelone, cette fois bilan 1 mort, 4 blessés. Un accident qui intervient 2 jours après la catastrophe d'Adamuz en Andalousie où au moins 42 personnes ont péri et plus de 120 ont été blessées. Cette fois, un train de banlieue à destination de Barcelone a heurté les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie à une quarantaine de kilomètres de la capitale catalane.
Au Nigeria, des attaques, des massacres et des kidnappings qui sont devenus presque quotidiens.
Plus de 160 chrétiens ont été enlevés dimanche dernier par des hommes armés. Le pays connaît une résurgence des kidnappings de masse depuis fin 2025. Wilfried de Villers, cette fois, ce sont 2 églises qui ont été attaquées dimanche dans le nord du Nigeria.
Oui, nous sommes en pleine messe dominicale quand des hommes armés font irruption dans un village isolé de l'état de Kanouda. Ils bloquent l'entrée de 2 églises, pénètrent dans les bâtiments, fusils à l'épaule et font sortir les fidèles jusqu'à la limite du village en les forçant ensuite à les suivre. Difficile de dire combien de personnes exactement ont été enlevées. Au moins 160, affirment plusieurs sources locales. Un rapport de l'ONU évoque plus de 100 fidèles et c'est loin d'être la première attaque visant des chrétiens. En novembre dernier, des raids similaires ont secoué la région. 300 élèves et leurs professeurs ont été enlevés dans une école catholique. Des attaques que dénonce régulièrement l'association Aide à l'Église en détresse. Thomas Oswald, responsable de l'information au sein de l'AED, regrette le manque d'action de la communauté internationale pour protéger ces chrétiens.
C'est clairement pas à la hauteur de la gravité de ces faits-là. Là, on parle de centaines de personnes qui sont enlevées comme du bétail, qui vont être parfois vendues à d'autres groupes, parfois transformées en esclaves sexuels. Enfin, c'est absolument dramatique.
Face à la résurgence des kidnappings de masse, le président nigérian Bola Tinubu Sinoubou a déclaré l'état d'urgence dans le nord du pays fin novembre.
Wilfried De Villers, la question qu'on se posait au début de ce journal, Donald Trump pourra-t-il bien participer au forum économique de Davos en Suisse? Son avion a dû faire demi-tour ce matin à cause d'un problème électrique mineur, mais il était non loin de Washington. Il devrait donc pouvoir arriver en Suisse avec un petit peu de retard.
Merci Fanny Marceau, soyez les bienvenus, il est 5h09 sur Europe 1. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Thomas Hill, Anissa Dadi, toute l'équipe de Culture Média vous attend tout à l'heure de 10h à 11h30 sur Europe 1. Toute l'actualité culturelle et médiatique, Marion, avec celles et ceux qui la font.
Alors, le programme aujourd'hui, Juju Fitcats au casting de la nouvelle saison de Danse avec les Stars et Valérie Bonneton et Hakim Isker pour la série L'Affaire Laura Stern.
Merci d'être avec nous ce mercredi 21 janvier.
Vous écoutez Europe 1 Bonjour avec Alexandre Lemaire et dans quelques instants, c'est la une du nouveau numéro du JD News.
Emmanuel Macron à bout de souffle. C'est une enquête sur la fin de son quinquennat et que vous raconte Jules Torres dans un instant. D'abord les courses. Thierry Léger, bonjour, votre pari gagnant.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 813. Ebrooks Park, ce trotteur dur et tenace, n'a pas raté ses débuts au trot monté le 19 décembre sur l'hippodrome de Vincennes où il s'est imposé sans aucune émotion et il revient cet après-midi à l'attelé, une discipline où il n'a plus à faire ses preuves. Dès lors, comme il se retrouve idéalement engagé à la limite de la qualification, il devrait pouvoir justifier sa position de grandissime favori. Alors notez bien pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 13, Ebrooks Park.
Merci Thierry, on vous retrouve après le journal de 5h30 avec vos pronostics du quintet dans 2 minutes sur Europe 1. Marion, votre histoire dingue.
Oui, je vais vous parler de frites ce matin, mais alors ça ne devrait pas du tout vous donner faim.
Ah bon ?
Au contraire, je pense. Il est 5h10 sur Europe 1.
À la une du JD News, bonjour Jules Torres.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion.
Dans le JD News, cette semaine, cette enquête sur les coulisses de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, vous décrivez un président à bout de souffle.
On parle beaucoup de la fin du macronisme, je crois qu'on vit surtout quelque chose de plus précis, la fin du pouvoir d'Emmanuel Macron. Pas une chute brutale, pas une nuit de défaite, mais un phénomène plus rare, presque silencieux, un pouvoir qui se retirait sans bruit, laissant un président encore en fonction mais déjà hors du jeu. Cette fin de règne ne commence pas en 2024 avec la dissolution, elle débute en réalité en 2022 lors d'une réélection étrange, sans véritable campagne, sans débat. Son projet clair pour le pays, Emmanuel Macron parlait déjà beaucoup au monde, il ne parlait plus vraiment aux Français. Depuis, tout s'enchaîne, la réforme des retraites imposée aux forceps, la loi immigration défigurée, puis la dissolution, une décision solitaire, presque suicidaire. Résultat, plus de majorité, des premiers ministres interchangeables, un exécutif affaibli, un parlement paralysé. Emmanuel Macron est toujours président, mais il n'exerce plus réellement le pouvoir. C'est un président fantôme.
Un président fantôme, dites-vous, mais pourtant Emmanuel Macron est très présent en ce moment, très actif sur la scène internationale.
Eh bien justement, plus le pouvoir lui échappe à l'intérieur, plus Emmanuel Macron se projette à l'extérieur. Ukraine, Europe, Groenland, la scène internationale est devenue son dernier théâtre. Il veut être le porte-parole des Européens, adopter une posture martiale, parfois même va-t-en-guerre, comme si la gravité de l'histoire pouvait masquer l'usure du pouvoir. Mais peut-on réellement s'imposer face à Donald Trump ou Vladimir Poutine quand on se couche devant Olivier Faure ou Abdelmadjid Tebboune ? D'autant qu'à l'intérieur, il ne lui reste plus qu'un seul levier, la trace, les grandes lois symboliques, la légalisation de l'euthanasie, une succession d'annonces, parfois de gadgets institutionnels, gouverner l'histoire faute de gouverner le présent. Et pendant ce temps, le pays décroche, plus de colère, plus de révolte, de l'indifférence. Ses vœux n'ont jamais été aussi peu regardés. Emmanuel Macron n'est donc plus un obstacle à franchir, mais une parenthèse à refermer pour les Français. Il est encore à l'Élysée, mais le pouvoir, lui, a déjà déserté les lieux.
Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ?
C'est un numéro particulièrement dense cette semaine. On y retrouve évidemment nos grandes plumes et nos voix régulières. Laurence Ferrari, Vincent Hervouet, Xenia Fedorova, Michel Onfray, Philippe Devilliers. Et parmi les temps forts, un reportage très fouillé de notre spécialiste des États-Unis, Alexandre Mandel, qui décrypte le tropisme de Donald Trump pour le Groenland, alors que l'hypothèse d'une acquisition américaine de ce territoire danois revient en force dans le débat. Nous publions aussi un dossier très fort donnant la parole à ceux qu'on entend rarement, soignants, patients, juristes et intellectuels, qui alertent sur les conséquences de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté examiné en ce moment au Sénat. Et puis une rencontre pleine de douceur et de liberté entre notre journaliste Pascal Ménadier et Hugues Auffray, le troubadour à la crinière blanche qui se raconte autour de ses premières passions bien avant la chanson, la peinture et la sculpture. C'est tout cela que l'on propose cette semaine dans le JD News.
Merci Jules Torres et à la une une du JD News donc. Emmanuel Macron, un président à bout de souffle, enquête sur les coulisses d'une fin de règne.
Oui, il est 5h15 sur Europe 1. À suivre dans 5 minutes les initiatives en France, Alexandre.
Oui, nous allons dans la Nièvre ce matin pour découvrir une entreprise familiale. Alors, elle existe depuis près de 200 ans, cette entreprise, et elle vient juste de mettre au point la toute première paille. Vous savez, les pailles qu'on glisse dans les verres, hein. Toute première paille 100% végétale. Pas de transformation chimique. C'est dans 2 minutes.
Europe 1.
Votre histoire dingue. Marion Gagnon à 5h15 sur Europe 1. Vous nous emmenez à la plage ce matin.
Oui. Alors, ne vous emballez pas, ce n'est pas pour vous parler de plage paradisiaque. Hein. Je vous emmène sur la plage de Falling Sands, c'est dans le sud de l'Angleterre. Alors, c'est sûrement très joli aussi, mais bon, si vous attendez au paysage des Seychelles, là, c'est raté, surtout que le panorama qu'offre cette plage habituellement a été quelque peu chamboulé. On a retrouvé des choses qui n'avaient absolument rien à faire sur cette plage.
Ah bah, décidément, Anissa Dadi, ici même, nous racontait il n'y a pas si longtemps cette histoire de chaussures, de chaussures antiques. Enfin, dans l'époque victorienne, retrouvée en masse sur une plage. Alors là, c'était au Pays de Galles. Ça s'arrête pas.
Et c'est vrai, oui, c'est vrai. Beaucoup de bateaux porte-conteneurs passent par la Manche. Et lorsqu'il y a des accidents, les cargaisons de ces conteneurs se retrouvent à la mer et finissent souvent sur les plages. Alors, sur cette plage de Falling Sands, les promeneurs ont eu la surprise de découvrir.
Des frites
par millions apparues. Et oui, à mesure que la marée se retirait, à tel point que de loin, la plage ressemblait au sable doré des Caraïbes, hein, d'après des témoins.
Bon, des montagnes de frites, c'est le cas de le dire, on a relevé jusqu'à 60 cm d'épaisseur par endroit sur cette plage.
Et ce n'était même pas appétissant parce que ce sont des frites crues. Même les mouettes n'en veulent pas.
Hein. c'est dire.
Elles proviendraient d'au moins 20 grands conteneurs tombés à la mer depuis deux navires lors d'une tempête. Alors, je vais vous la partager. La photo de cette plage, évidemment, vous allez voir, c'est impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est que sur la photo, on peut aussi voir des oignons au milieu des bâtons de pommes de terre. C'est parce que quelques jours plus tôt, des oignons se sont aussi échoués sur cette plage. Écoutez, si à la prochaine tempête, des conteneurs de lardons et de reblochons venaient à s'échouer, on pourrait faire une tartiflette géante et à la limite, le problème serait réglé, Alexandre.
Bon, on pourrait aller faire sur marché si c'était plus appétissant. C'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas le temps d'attendre, là. Hein.
Ah non, un appel aux bénévoles a été lancé sur Facebook pour nettoyer la plage au plus vite parce qu'en plus des frites, il y a aussi les sacs en plastique qui les contenaient et ça, c'est un danger pour la faune locale.
Bah, tous les oiseaux, vous parliez des mouettes, les animaux marins aussi.
Exactement, sur cette plage vit d'ailleurs une petite colonie de phoques. Alors si eux voient ces sacs, ils pourraient tenter de jouer ou de les manger. Hein, donc ça, c'est dramatique. Pour les chiens aussi, ça peut être dangereux. Hein. Le conseil du comté a appelé le public à la prudence sur le littoral avec ce message. Merci de tenir les chiens en laisse. Certains aliments échoués peuvent être dangereux pour eux. Et oui, c'est vrai, hein, si les frites sont avariées, ça peut causer des maladies pour ces chiens. Ça doit être compliqué. Imaginez, vous êtes un chien, vous avez ce buffet à volonté devant les yeux, vous ne pouvez pas y toucher.
Là, alors cru.
Cru, oui, c'est pas terrible, mais enfin bon, pour les chiens. Non, mais le spectacle est impressionnant. Je vous partage bien sûr la photo sur la page Europe 1. Bonjour.
Impressionnant et pas très ragoûtant. Si je veux monter une baraque à frites sur cette plage, vous me dites non.
Je vous dis non tout de suite.
Votre histoire dingue, Marion, merci.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Europe 1, 5h17, le journal permanent Fanny Marceau.
Le faux départ de Donald Trump, le président américain en route pour le forum économique de Davos, a dû faire demi-tour en raison d'un problème électrique mineur de son avion. Retour à Washington donc, le temps de changer d'avion. Il devrait bien se rendre cependant en Suisse où il compte mener plusieurs réunions sur le Groenland dont il rêve l'annexion malgré les oppositions des Européens et notamment d'Emmanuel Macron. Il n'est plus là pour longtemps, a déclaré hier le président américain, taclant son homologue français. Action du chef de l'État, nous ne nous laisserons pas intimider. Donald Trump, qui a par ailleurs répondu hier aux menaces d'un officier supérieur iranien, appelant à son assassinat s'il s'en prenait à l'ayatollah Khamenei en Iran. Le président américain a annoncé que Téhéran serait rayé de la carte si cela se produisait, affirmant avoir donné des ordres très clairs. Et puis en Espagne, deux jours après la catastrophe ferroviaire d'Adamus, qui a fait 42 morts et plus de 120 blessés en Andalousie, un nouvel accident de train, cette fois à une quarantaine de kilomètres de Barcelone. Un train de banlieue à destination de la capitale catalane a heurté les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie en raison des intempéries. Bilan, un mort et au moins 5 blessés graves.
Merci Fanny Marceau. Avant le journal de 5h30 qui arrive dans 10 minutes, vous allez écouter ce matin Claudio Capeo.
Oui, Claudio Capeo qui est de retour avec « Qu'est-ce qu'il me restera ?» extrait de son dernier album « Nouveau souffle ».
Les initiatives en France à 5h18 sur Europe 1 ce matin, c'est une solution 100% française pour dire adieu au plastique à usage unique. Bonjour Frédéric Soyer.
Bonjour Alexandre Maire.
Vous êtes le président de Soyez Frères. Alors c'est une affaire de famille. Hein. Vous êtes implanté dans la Nièvre depuis plus de deux siècles maintenant. Vous lancez une paille, alors une paille celle que l'on glisse dans nos verres, hein, une paille sans plastique. Il faut rappeler qu'elles sont désormais interdites. Eh bien la vôtre, vous allez nous la détailler, elle est issue à 100% de matière végétale.
Absolument, tout à fait. Les pailles en plastique sont désormais interdites, comme vous l'avez rappelé, depuis juillet 2021. Et la seule matière autorisée à date et conforme à la réglementation single-use plastique, les objets à usage unique, c'est des pailles en papier. Et donc, depuis 5 ans, nous travaillons avec un partenaire finlandais, sous la PAC, à la mise au point d'une nouvelle solution issue de matières parfaitement végétales. Ce sont des sous-produits de la distillation et de l'univers des boissons qui leur a permis de mettre au point cette recette.
Oui.
Et ensemble, on a développé la solution technique adaptée pour pouvoir apporter cette nouvelle solution.
Bon, alors vous n'allez pas, j'imagine, nous livrer tous vos secrets industriels, pas ce matin, mais quand même, comment vous faites pour avoir une paille 100% végétale et ajoutez-vous, sans modification chimique, comment faites-vous ?
Absolument. Alors, écoutez, ça c'est vraiment effectivement un grand secret qui est surtout la propriété de notre partenaire sous la PAC.
Oui.
On a, effectivement, il s'agirait de le rappeler, beaucoup de groupes pétrochimiques majeurs, des très grands acteurs. Vous vous doutez bien que le monde du basculement du plastique vers des matières alternatives est un enjeu tout à fait capital pour l'industrie plastique,
oui,
et chimique d'une façon générale. Il y a des enjeux énormes. La paille est un des éléments, mais il y a une foultitude d'autres produits qui sont concernés. Et donc cet enjeu a mobilisé beaucoup d'acteurs de l'industrie chimique pour essayer de trouver une alternative qui soit susceptible de pouvoir répondre. Et donc c'est sous la PAC, dans ces forêts finlandaises, j'ai envie de vous dire, qui patiemment a mis au point avec nous, on a dû adapter nos machines. Le gros avantage, c'est qu'on a réutilisé une partie des machines que nous utilisions jadis pour faire des pailles en plastique.
Oui, oui.
Donc on a réutilisé ces machines, tout ou partie, qu'on a dû modifier pour pouvoir y arriver.
Voilà, parce qu'il faut raconter un petit peu l'histoire de votre entreprise. En effet, Frédéric Soyez, vous étiez historiquement leader de la production de pailles en plastique. Et puis en 2021, boum, changement de législation, la loi anti-gaspillage arrive, elle annonce l'interdiction de ces pailles en plastique. Vous avez failli mettre la clé sous la porte, mais vous avez réussi ce retournement, hein, spectaculaire pour devenir justement maintenant à l'avant-garde des pailles 100% végétales.
Oui, absolument. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On a eu des heures et des années extrêmement difficiles. Je dois tirer un grand coup de chapeau à toutes les équipes qui sont mobilisées, qui sont battues pour pas laisser s'installer une situation qui soit infernale. Et donc, on a réussi à mettre au point, enfin, ensemble, ces matériaux et cette nouvelle recette qui est une vraie révolution.
Alors, je vous pose cette question justement de la composition. On a bien compris que vous allez la garder secrète, vos pailles pour les boissons 100% végétales, Frédéric Soyez. Je vous pose cette question parce que depuis l'interdiction officielle des pailles en plastique, alors, il y a bien des alternatives qui ont été lancées, mais vous nous dites que l'interdiction, en réalité, elle a été contournée. Ce ne sont pas des produits vraiment écologiques qui sont sur le marché. Pour quelles raisons ?
Bien, les pailles en papier, aujourd'hui, sont les seules qui soient susceptibles de pouvoir répondre à la réglementation telle qu'elle a été dictée par l'Europe, parce qu'on se réfère à la loi à usage unique, et des plastiques à usage unique. Mais en face de cette loi à usage unique, il y a une autorisation qui est faite aux produits réutilisables. Et donc, par ce biais, le plastique peut être utilisé de nouveau dans le réutilisable. Et on voit apparaître de plus en plus des produits dans les bars, hôtels et restaurants en France, de plus en plus issus de matières végétales mais chimiquement modifiées. La bagasse, par exemple,
oui,
issue de canne à sucre, envahit le marché. C'est un bioplastique qui peut être conforme à la réglementation du reuse, du réutilisable, mais qui n'est en rien conforme à la réglementation du single use, à usage unique. En toute franchise, je ne connais pas de gens, à ma connaissance, qui lavent des pailles pour les réutiliser le lendemain.
Bah parce que votre paille à vous, pardonnez ma curiosité, Frédéric Soyez, mais vous n'avez même pas de pellicule en plastique dessus, je ne sais pas, pour éviter qu'elle ne ramollisse au contact du liquide. Vous avez vraiment trouvé la formule magique.
Ça a été le... Ouais, non, vous avez raison.
ça a été vraiment le gros challenge. Effectivement, évidemment, interdiction d'avoir des matières plastiques, quelles qu'elles soient, d'origine végétale, évidemment, a fortiori d'origine pétrolière, mais fossile. Mais il est évidemment impossible d'avoir une matière d'origine chimique et végétale sur ce produit. Donc, on l'a fait absolument à partir de matières 100% naturelles.
Bon, alors si je comprends bien, vous avez de l'or entre les mains. Là, j'imagine que vous avez déjà noué des contrats industriels pour votre nouvelle paille.
On démarre, honnêtement. Oui. On en est au début, on en est au tout début. C'est un long chemin. On vient d'ouvrir en fait un nouvel horizon. C'est très encourageant. On a quelques contacts avec quelques grands acteurs qui nous ont évidemment témoigné de leurs intérêts forts pour pouvoir leur proposer des solutions alternatives à ce qu'ils ont aujourd'hui. Et pour nous, évidemment, c'est un grand espoir.
Voilà, la première paille 100% végétale, sans transformation chimique. La première paille a glissé dans son verre. Donc, hein, Frédéric Soyer, merci, président de Soyer Frères, ce matin sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h,
Alexandre Lemaire.
Europe 1, bienvenue, il est 5h25, avant le journal de Christophe Lamar. Marion, un réveil en musique.
Eh oui, on écoute le dernier titre de Claudio Capeo, c'est Qu'est-ce qu'il me restera sur Europe 1.
Quand j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera? Je sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux, à quel point les gens me mentent. Si je choisis mes vêtements un peu mieux, je sais pas vraiment si je suis jeune ou trop vieux, à quel point mes proches me manquent, si la tristesse rend les gens plus curieux. Quand j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me reste? Je sais pas vraiment si je suis sage ou trop fou, si j'ai toujours les mêmes rêves, à quel point il faut que j'abrège mes rendez-vous. Je sais plus vraiment si je sais rien ou je sais tout, si je parle toujours des mêmes thèmes, à quel point quand je dis je t'aime, je surjoue. Comme j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera? Si ce monde éphémère s'effondre, qu'est-ce qu'il me restera? Quand j'aurai fait le tour.
Qu'est-ce qu'il me restera, Claudio Capeo sur Europe 1. Et l'artiste est en pleine tournée des Zéniths. Hein. Vous le retrouverez notamment au Zénith de Paris. Alors un peu de patience, ce sera le 23 janvier, mais le 23 janvier 2027.
Et alors à vos agendas, mercredi 21 janvier 2026, en attendant, dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, Marion, le Club Culture, dans 20 minutes, le livre du jour avec Nicolas Caro.
On l'appelait Benny Diamond, c'est le roman brillant qu'a choisi Nicolas ce matin.
Et les nouveautés au cinéma avec Laurie Choleva.
Oui, Laurie vous parlera du film Le Mage du Kremlin avec Jude Law.
Donald Trump menace les vins français de 200% de droits de douane, ce qui serait la catastrophe pour nos viticulteurs. On va en parler juste après le journal avec mon invité ce matin, Jean-Marie Fabre. Il est le président des vignerons indépendants de France. Il nous rejoint dans 10 minutes.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
Côté ciel, Marion, et bien cette fois c'est l'ouest du pays qui va être arrosé.
Eh oui, on a une perturbation qui est arrivée par la Bretagne hier et qui sera très active aujourd'hui encore avec des pluies soutenues sur le nord-ouest et du vent. Alors là où vous allez vraiment sentir cette agitation, c'est sur les Pays de la Loire, la Normandie et bien sûr la Bretagne où deux départements sont actuellement en vigilance orange. Vigilance pluie, inondation sur le Finistère et le Morbihan et vigilance orange crue sur le Finistère. Donc prudence.
Les cumuls devraient être très importants. Ailleurs, les pluies seront moins marquées, mais prévoyez quand même le parapluie si vous habitez sur le flanc ouest, parce que cette perturbation, elle va progresser, elle va toucher toutes les régions de l'ouest au fil des heures. Parapluie conseillé aussi en direction des Cévennes, mais partout ailleurs, le temps sera beaucoup plus calme. Plein soleil en PACA et en Corse, profitez-en. Côté température, elles restent de saison. Elles seront d'ailleurs plus douces à l'ouest, plus basses vers le nord-est, avec quelques gelées au lever du jour. Moins 3 degrés à Belfort ce matin, alors qu'il fera déjà 12 degrés à Biarritz au lever du jour. Ça, c'est du contraste. Cet après-midi, vous aurez 5 à Colmar, 9 à Dunkerque, 12 à Saint-Brieuc, 13 à Paris, 14 au Mans et à Toulon, 16 à Perpignan et 17 degrés à Saint-Girons.
Merci Marion. Europe 1, bonjour et bon réveil. Il est 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
À la une, le bulldozer Donald Trump attendu à Davos. Le président américain se rend aujourd'hui au Forum économique mondial. Il va dérouler son propre agenda, discours, puis entretien avec les Européens sur le Groenland et sur les droits de douane. Tragique loi des séries en Espagne. C'est l'information de la nuit. Un train de banlieue a percuté un mur effondré près de Barcelone hier soir. Un mort et 30 blessés. Un accident qui survient deux jours seulement après la collision meurtrière entre deux trains qui a fait 42 morts en Andalousie. Le budget 2026, la motion de censure sur la partie recette sera examinée vendredi. Peu de chance de voir le gouvernement tomber. Il n'empêche, à droite et chez les macronistes, la pilule des hausses d'impôts a bien du mal à passer. À Strasbourg, les agriculteurs campent devant le Parlement européen pour protester contre l'accord avec le Mercosur. Les eurodéputés vont se prononcer aujourd'hui sur la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis le foot, avant-dernière journée de la phase de Ligue en Ligue des champions, le PSG et Monaco battu, les Monégasques humiliés 6 buts à 1 par le Real Madrid. 5h30 sur Europe 1, le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il n'est pas encore arrivé, mais on ne parle que de lui. Donald Trump compte bien imposer sa façon de voir le monde tout à l'heure au Forum économique de Davos, dans les Alpes suisses. Le président américain ne viendra pas seul. 800 personnes, dont une très large majorité de chefs d'entreprise, composeraient sa délégation. L'événement, ce sera bien sûr sa prise de parole cet après-midi, autour de 15h30. Un discours assurément choc dans une station chic. William Molinier.
C'est le coup de force permanent, frappé vite et fort. Voilà la méthode de Donald Trump pour imposer sa vision du monde. Fini les pays traités d'égal à égal. Désormais, les relations internationales fonctionneront par la puissance. Des rivalités naîtra. Le nouvel équilibre mondial, forcément dominé par les États-Unis. À Davos, Donald Trump est arrivé avec la plus grande délégation américaine jamais envoyée dans la station suisse. 5 ministres, 2 négociateurs, dont l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Une démonstration de puissance pour accompagner la croissance économique et les investissements. Les patrons de Nvidia et de Microsoft sont aussi dans les bagages du président, égard aux présomptueux qui se mettraient en travers du chemin de Donald Trump. Emmanuel Macron, qui assume préférer l'état de droit à la brutalité, en a fait les frais. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur le vin et le champagne français. Avant de monter dans Air Force One, il a eu hier cette formule à l'égard de son homologue français. Personne ne veut de lui car il va bientôt quitter ses fonctions. La cruelle lucidité du président américain.
William Molinier et Donald Trump qui rejettent la proposition d'Emmanuel Macron de participer à un sommet du G7 vendredi à Paris. Le dirigeant américain qui a rajouté une pique à l'adresse du chef de l'État français hier soir. Un type sympa, dit-il, mais il ne va pas rester très longtemps. Et puis on l'a appris il y a une demi-heure, Marion Alexandre, l'avion de Donald Trump a fait demi-tour après un problème électrique mineur. C'est ce qu'indique la Maison Blanche. Le président et sa délégation vont prendre un avion de réserve et ils arriveront donc un peu plus tard à Davos. Arrivée retardée.
Le débat sur la fin de vie au Sénat, comme on pouvait s'y attendre, le texte sur la fin de vie divise profondément la classe politique.
Et on rappelle que ce texte a été scindé en deux parties, l'une sur les soins palliatifs qui fait plutôt consensus, l'autre sur l'aide active à mourir. C'est cette dernière d'ailleurs que les sénateurs examinent en premier. Un texte d'abandon fustige le patron des Républicains Bruno Retailleau. Deux visions de la vie diamétralement opposées, Jacques Serret.
Lorsqu'elle se présente à la tribune, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, est bien décidée à faire passer cette réforme.
C'est une demande très forte de nos concitoyens qui nous est collectivement adressée, celle de ne pas détourner le regard.
Mais face à elle, la droite sénatoriale est loin d'être convaincue, bien au contraire.
Pourquoi ce texte maintenant, alors que tant de patients meurent encore sans accès effectif aux soins palliatifs ?
La rapporteure de la Commission des affaires sociales, Christine Bonfanti-Dossat, monte au front.
La réponse, mes chers collègues, n'est pas médicale. Elle n'est pas non plus juridique. Elle est politique.
Suivie de Bruno Retailleau.
Les garde-fous d'aujourd'hui ne garderont rien du tout. Dans ce domaine-là, les portes entrebâillées finissent toujours grandes ouvertes parce qu'il y a une logique, la logique de l'émancipation radicale.
Une logique défendue par l'écologiste Anne Souyris.
Notre République doit maintenant garantir la liberté, l'égalité, la fraternité face à la mort. Mon corps, mon choix.
Deux conceptions, deux visions de la vie et de la mort irréconciliables.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vers la fin des ZFE, ces zones à faible émission interdites aux véhicules anciens et polluants dans les villes et leurs agglomérations. La commission mixte paritaire est tombée d'accord pour les supprimer, mais cette suppression doit encore être confirmée en séance à l'Assemblée et au Sénat.
Europe 1, il est 5h34.
Le jour J au Parlement européen de Strasbourg, une partie des 5000 agriculteurs mobilisés contre l'accord avec les pays du Mercosur vient de passer la nuit sur place.
Les eurodéputés se prononceront en effet aujourd'hui sur la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. L'instance sera chargée d'évaluer la solidité de cet accord UE-Mercosur. Option qui retardera donc d'autant son entrée en application. Raison de plus pour accentuer la pression sur les parlementaires. 5500 agriculteurs se sont donné rendez-vous dès hier. Laura Legault, envoyée spéciale d'Europe 1 à Strasbourg.
Face aux manifestants, plusieurs représentants de syndicats agricoles en Europe se succèdent en anglais, en français, mais aussi en italien et en polonais. Ils sont nombreux à avoir traversé plusieurs pays pour venir protester, comme Igor, venu de Hongrie.
Le traité du Mercosur doit être arrêté, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Peut-être que notre voix sera entendue dans le Parlement, parce qu'à la table des négociations, nous ne sommes pas entendus.
Comme ses collègues français, le Hongrois dénonce la concurrence déloyale subie par les agriculteurs européens.
Ces importations sont inacceptables pour les agriculteurs hongrois, mais aussi pour les agriculteurs européens. Nous avons déjà beaucoup de pression de l'Ukraine, du Brésil, ça nous oppresse.
Tous espèrent être entendus par les eurodéputés. Un drapeau polonais dans les mains, Adrien est optimiste.
Nous avons espoir. Nous allons continuer de protester, parce que nous savons que nous allons gagner.
La présence de ces agriculteurs européens réjouit les Français, comme Nicolas, 18 ans.
C'est rassurant, parce qu'on voit qu'on se bat tous pour la même chose, pour le Mercosur, tous, on est contre ça.
Français, Belges, Italiens et Polonais, tous attendent désormais, ensemble et avec impatience, l'issue du vote. Strasbourg, Laura Legault, Europe 1.
Les suites du 49-3 sur le budget, les motions de censure du Rassemblement National et de la France Insoumise seront examinées vendredi.
Elles devraient être a priori rejetées, le Parti Socialiste ayant d'ores et déjà assuré le gouvernement de son soutien. Le Premier ministre qui déclenchera le 49-3 à trois reprises, sur la partie recette, on vient de le voir, le volet dépenses un peu plus tard, et enfin sur l'ensemble du texte après son passage au Sénat. Sébastien Lecornu, plus déterminé que jamais, Alexis de la Fontaine.
Oui, Sébastien Lecornu franchit le Rubicon et engage la responsabilité de son gouvernement. Écoutez le Premier ministre justifier sa décision à la tribune de l'Assemblée nationale.
Les choses, vous le savez, sont désormais bloquées. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget.
Sébastien Lecornu accuse à nouveau la France Insoumise et le Rassemblement National de saboter les débats. En réponse, les oppositions vont déposer deux motions de censure qui seront mises au vote ce vendredi. Pour la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, ce sera un moment de vérité, notamment pour le Parti Socialiste.
L'isolement n'est pas du côté de la France Insoumise et des Insoumis, mais bien du côté des socialistes, ceux-là même qui protestaient, qui disaient qu'ils allaient censurer le gouvernement Lecornu s'ils ne renonçaient pas au 49-3, et maintenant qu'il emploie et qu'il a recours au 49-3, annonce là aussi qu'il ne le censurerait pas, ce qui n'a plus aucun sens.
Les Républicains devraient eux aussi s'abstenir de voter la motion de censure et permettre à Sébastien Lecornu de faire adopter son budget très à gauche.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, puis Alexandre, vous connaissez la formule, le provisoire qui dure. Eh bien, ce projet de loi de finances prolonge la contribution différentielle sur les hauts revenus. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est cette taxe de 20% minimum sur les hauts revenus à partir de 250 000 euros pour un célibataire, 500 000 euros pour un couple. Eh bien, elle se maintiendra jusqu'à ce que le déficit repasse sur les 3%. Pour information, la dernière fois, c'était en 2019. Entre 30 mois et 3 ans de prison pour 10 personnes pour leur implication dans un trafic de drogue qui alimentait la petite ville de Saint-Flours dans le Cantal. Une gendarme figure parmi les prévenus. Outre sa condamnation, elle est frappée d'une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique.
Les sports à 5h38 sur Europe 1 avec du foot et cette mauvaise soirée pour les deux clubs français engagés hier soir en Ligue des Champions.
Défaite du PSG 2-1 sur la pelouse du Sporting Portugal. Monaco a vécu quelque chose comme l'enfer face au Real Madrid. 6-1 pour les Madrilènes avec 2 buts de Kylian Mbappé. Troisième et dernier club français engagé à l'occasion de cette avant-dernière journée de la phase de Ligue. Marseille reçoit Liverpool ce soir. Une affiche qui, bien sûr, fait rêver les supporters. Reportage Stéphane Burgat.
Le frisson des grands soirs pour les supporters qui ont eu la chance d'avoir leur précieux sésame, comme Georges.
Une affiche comme ça, il y aurait 2 vélodromes et ils seraient pleins les deux. Pas compliqué. C'est tellement beau pour nous, vous rendez compte. Le championnat français, il est beau, mais c'est toujours les mêmes équipes. Là, c'est l'Europe. On rencontre un peu Liverpool, on rencontre les sommités, un peu, voilà. Ça tire vers le haut.
Certains ont même traversé le pays pour cette affiche de rêve à l'image de Johan et de Yann.
Ah ben, on vient des Ardennes, donc on vient pas d'à côté. C'est le match à voir.
C'est la plus grosse affiche cette année à Marseille, avec beaucoup d'Anglais. Qu'il y aura dans les stades aussi, donc ça va être une belle ambiance, ça va être jovial.
La bataille des décibels qui va se jouer en tribune face aux 3300 supporters anglais qui ont fait le déplacement et sur la pelouse, les joueurs olympiens comme Pierre-Emile Højbjerg restent prudents.
Liverpool, c'est une équipe forte. Hein. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de confiance en nous. Je crois que ça va être un match complet. On va tout faire pour gagner le match. Oui.
Car les Reds de Liverpool sont moins étincelants cette saison, c'est vrai. Mais attention à ne pas les sous-estimer, souligne le milieu de terrain de l'OM. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Voilà, Marseille-Liverpool, c'est ce soir à 21h, à suivre sur Canal+.
Merci Christophe Lamar, c'était votre journal de 5h30. Et c'est l'heure à présent de retrouver les pronostics du Quintet sur Europe 1. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est sur l'hypothèse. De Cagnes-sur-Mer que va se courir ce quintet, une course aux trois attelés qui réunira 14 trotteurs expérimentés âgés de 8 à 11 ans sur la distance de 2925 mètres. Il est impératif de faire confiance au numéro 9 Easterman qui vient de se balader le 11 décembre sur l'hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux où, associé au jeune et talentueux driver Théo Briand, eh bien ces deux-là ont dominé leur sujet du départ à l'arrivée. Dès lors, il devrait sans aucune difficulté réaliser cet après-midi le doublé. On le proposera les numéros 12, Udo Duruel, en plein boom actuellement, comme le prouve sa récente seconde place obtenue à Cagnes-sur-Mer, tout près du champion Hinault du Lupin. 13, Happy Danica, pas des plus heureuses dans le quintet du 10 janvier à Vincennes, face à une opposition certainement bien plus relevée que celle de cet après-midi. Et 14, Hymne du Gers, préparé avec soin pour cet objectif et confié pour l'occasion au crack driver Christophe Martens. Enfin, les numéros 11, Hibiscusman, 5, Hérodémote, 2, Golden Visay et 6, Futur Duchesne compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 12, 13, 14, 11, 5, 2 et 6.
Merci Thierry Léger.
Et vous retrouvez dès maintenant à tous les pronostics de Thierry Léger sur l'appli Europe 1 et sur Europe 1.fr.
6h20 sur Europe 1, c'est l'heure de jouer. Marion, avant de découvrir la question du jour, le cadeau cette semaine.
Un cadeau qui va vous ressourcer puisqu'Europe 1 vous offre une parenthèse de bien-être à l'hôtel Thalazur Carnac. C'est une des 9 escales de la collection Thalazur. Cet hôtel ancré dans la baie de Quiberon, eh bien c'est un lieu d'élégance, de confort et de soins. Et nous avons réservé pour vous un séjour escale détente zen. Alors le programme, 3 jours, 3 nuits, avec la personne de votre choix évidemment, pour vous détendre, notamment grâce à 9 soins individuels d'eau de mer avec bain hydromassant. Vous aurez également accès libre au spa marin, à l'espace hammam, au sauna et vous pouvez bien sûr retrouver les 9 escales de la collection Thalazur sur thalazur.fr et au salon les Thermalies. Ce salon, il a lieu à partir de demain, du 22 au 26 janvier au Carrousel du Louvre à Paris.
La question du jour. Il y a 50 ans, exactement le 21 janvier 1976, avait lieu le premier vol commercial du Concorde. Europe 1 revient sur les débuts de ce célèbre avion supersonique dans le podcast Flashback sur l'appli et le site Europe 1. En quelle année le Concorde a-t-il été mis à l'arrêt forcé ? Réponse A, c'était en 2003. Réponse B, en 2005.
Pour tenter votre chance et répondre à la question, vous envoyez Thalasso au 739-21, 2 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et chaque jour, un gagnant est également tiré au sort parmi tous les inscrits pour remporter son abonnement de 3 mois au JD News. Eh bien, ce matin, c'est Armel qui habite Saint-Gervais, c'est en Gironde, qui remporte l'abonnement mis en jeu hier. Bravo à vous, Armel.
Allez, bonne chance à tous.
Europe 1, il est 5h43, votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Jean-Marie Fabre, président des Vignerons indépendants de France.
Bonjour Jean-Marie Fabre.
Bonjour.
Donald Trump multiplie les menaces contre l'Europe, contre la France. Il nous reproche de vouloir faire respecter la souveraineté du Groenland. Il nous reproche aussi de ne pas vouloir rejoindre son Conseil de la paix avec lequel il veut court-circuiter les Nations Unies. Sa dernière menace en date, elle concerne directement votre secteur, Jean-Marie Fabre, la viticulture. Alors, Donald Trump veut taxer nos vins, nos champagnes, nos spiritueux à 200% de droits de douane pour l'entrée aux États-Unis. Comment vous abordez les jours qui arrivent ? C'est l'inquiétude qui domine.
Alors oui et non, très sincèrement, je pense que maintenant nous avons quand même l'habitude de voir fonctionner ce président américain. Ce n'est pas son premier mandat, on avait déjà vécu ces coups de boutoir sur les taxes qu'il imposait à d'autres secteurs et notamment au secteur des vins spiritueux français en 2020. Il y avait déjà eu l'expérience de mars dernier où déjà il brandissait cette menace de 200% de droits de douane supplémentaires pour les vins spiritueux français, donc forcément un embargo pour la pénétration de nos produits sur ce marché. Donc aujourd'hui, oui, bien évidemment que si ces taxes étaient appliquées, elles seraient un embargo total. Et bien évidemment, c'est une anxiété pour nous supplémentaire dans un moment difficile. Mais on sait aussi que c'est la méthode de Trump, celle du combat, celle du rapport de force.
Oui, alors la méthode Trump, vous dites en effet, on commence à connaître le personnage, il fête lui-même le premier anniversaire de son second mandat. Ses déclarations sont à prendre au sérieux, c'est-à-dire qu'il va joindre l'acte à la parole, Jean-Marie Fabre, il l'a déjà montré.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un homme qui rentre dans les rapports de force avec violence, avec brutalité, qui a cette capacité à ne respecter finalement les gens qu'à condition qu'ils combattent aussi. Et on a vu, oui, qu'il appliquait souvent, lorsque les gens étaient faibles, des droits de douane et qu'il gagnait toujours finalement plus que ce qu'il avait au départ. Mais que l'inverse est vrai, c'est-à-dire quand ce rapport de force a été relevé par d'autres pays, je pense au Canada ou au Mexique, bon, mais oui, il a fait aussi marche arrière parce que ça a déstabilisé une partie de son économie et que, oui, les autres pays ne se sont pas laissés dominer ou faire.
Mais alors Jean-Marie Fabre, mettre les paroles de Donald Trump en acte, imaginons, surtaxe de 200%, là, effective sur les vins, champagne, spiritueux français, qu'est-ce que cela signifie pour vous, les vignerons ?
C'est zéro vente. Vous savez, aujourd'hui, 200%, on l'a vécu pour, d'ailleurs, les vins australiens sur le marché chinois il y a 2 ans. Ils ont perdu 100% de leur marché pendant 2 ans. Donc, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 15%, ce n'est pas ni surmontable ni acceptable. Donc, si demain, il y avait l'application de cette menace, c'est-à-dire des 200%, c'est la fermeture quasi définitive pour plus de 95 ou de 99% de nos vins commerciés aux États-Unis.
Jean-Marie Fabre, ce qu'il faut rappeler, en effet, c'est que cette annonce et menace de Donald Trump, elles interviennent dans un contexte déjà particulièrement difficile pour la viticulture, pour les vignerons. Hein, le contexte qui s'inscrit dans une tendance sur le long terme, c'est la diminution de la consommation.
Alors c'est un phénomène bien plus large que celui-là, vous avez raison, mais la dégradation de la capacité économique de notre secteur, de nos entreprises et de ces TPE, PME, artisanales, mais pas que de l'ensemble des acteurs, elle est la conséquence des 5 dernières années, des 6 bientôt, depuis 2019-2020, le premier mandat de l'administration américaine sous le président Trump. Nous avions déjà vécu 25% de droits de douane en rétorsion des accords avec les conséquences de l'arbitrage de l'OMC sur l'avionneur Airbus en compétition avec Boeing, et nous avions à l'époque déjà perdu 20% de parts de marché. Mais se sont succédés à ces difficultés-là, la crise sanitaire, souvenez-vous, nos marchés fermés pour plus de 85% dans tous les pays du monde, et cela a duré pendant, oui, plusieurs mois, voire plusieurs années, selon les continents. À cela s'est rajouté derrière le contexte de fragilité lié aux crises climatiques, et bien évidemment, depuis, oui, 2022, les conséquences directes avec l'explosion de nos charges du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc notre secteur, oui, est déjà fortement éprouvé, et à ça se rajouterait effectivement un élément de fragilité supplémentaire, voire pour certains oui. un coup de massue, voire un coup de grâce.
Alors, à échelle humaine, prenons la vôtre, Jean-Marie Fabre, puisque je rappelle que vous êtes vigneron, vous-même, à Fitou, en Occitanie. Ce serait quoi les conséquences pour votre exploitation?
Et pour mon exploitation, les États-Unis fait partie des 16 destinations commerciales pour lesquelles j'exporte mon produit à la taille de mon entreprise familiale. Ça veut dire globalement entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires perdu net du jour au lendemain. C'est autant de bouteilles et de volumes de commercialisation qu'il va me falloir soit stocker et donc pas de chiffre d'affaires réalisé alors que j'ai engagé les charges pour les produire, et qu'il va falloir que je retrouve des marchés, que je développe des marchés. Mais croyez bien que je ne les attends pas, ces marchés, au quotidien, que ça soit en B2C avec le consommateur ou en B2B avec les professionnels en France et dans le monde. Je me lève tous les matins avec la volonté de conquérir de nouveaux consommateurs et donc de nouveaux réseaux de distribution.
Donc
c'est pas aussi simple que de le dire. Il faut le faire et ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent.
Ça prend du temps, en effet, mais effectivement, compte tenu de ce nouvel ordre mondial qui se dessine, et encore une fois, vous le disiez, nous commençons à connaître le fonctionnement de Donald Trump, vous avez sans doute intérêt, j'imagine, à vous tourner davantage, plus intensément vers des marchés comme la Chine.
Alors, on doit se tourner plus intensément vers tous les marchés. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est certain. Une réalité, c'est que l'avenir du secteur des vins et des spiritueux se fera à l'export, au grand export, et dans toutes les zones du monde où le vin se consomme, où il se découvre, mais où il se consomme aussi de manière croissante. Et je ne pense pas que la seule Chine, qui a connu des difficultés économiques, et où on voit bien qu'on a un peu replié, soit le seul Eldorado. Il y a aujourd'hui, vers l'Inde, vers l'Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, et on a parlé dernièrement des accords liés aux zones commerciales des pays du Mercosur, il y a vers tous ces pays-là l'obligation de pouvoir faire construire des accords de libre-échange favorables au secteur des vins spiritueux pour aller gagner des parts de marché, pour aller engager cette compétition.
Comme avec le Mercosur.
Oui. Alors, comme avec le Mercosur, c'est-à-dire avec un accord qui nous permette d'avoir une pénétration sur les marchés de l'Amérique du Sud sans droit de douane, mais permettez-moi de dire que je n'ai pas changé de position. Si le Mercosur s'applique demain, bien sûr qu'il s'appliquera et nous en bénéficierons, mais nous ne souhaitions pas que l'accord tel qu'il a été rédigé et signé soit validé, parce qu'on ne peut pas dire il faut que la filière viticole puisse se développer au détriment d'autres secteurs agricoles. Ce n'est pas la politique que je porte pour le compte de mon organisation et que nous souhaitons en tant qu'agriculteurs français. Mais effectivement, partout où nous allons construire soit des accords bilatéraux, soit des accords globaux dans lesquels l'agriculture ne sera pas perdante et la viticulture pourra gagner en matière de droits de douane, bien nous irons éviter ce type de difficulté, c'est-à-dire lorsqu'on dépend trop d'un seul acteur ou d'un pays qui est aujourd'hui en valeur pour la France, le premier pays en consommation et en achat, eh bien forcément ça nous fragilise et la diplomatie doit permettre de faire baisser tout cela. Mais je redis que ce que nous attendons aussi de la France et de l'Union européenne, c'est de la fermeté, parce que nous sommes le premier client, l'Europe, des États-Unis, et qu'on ne peut pas se laisser menacer en permanence.
De la fermeté, vous vous tenez donc aux côtés de ces choix politiques qui sont ceux de notre gouvernement et de notre président Emmanuel Macron, ainsi que des Européens. Nous avons entendu votre message, Jean-Marie Fabre, merci. Je rappelle merci que vous êtes le président des vignerons indépendants de France, vignerons vous-même à Fitou, en Occitanie. Merci à vous.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Bon réveil, vous êtes sur Europe 1, 6h-10, ce journal permanent, Christophe Lamar.
Demi-tour au-dessus de l'Atlantique pour Air Force One. L'avion de Donald Trump a dû rentrer à Washington après avoir rencontré un petit problème électrique, dit la Maison Blanche. Le président américain et sa délégation vont changer d'appareil afin de rallier Davos dans les Alpes suisses, comme prévu. Tragique loi des séries en Espagne, un train de banlieue a heurté un mur près de Barcelone hier soir. Bilan, un mort et 30 blessés. Cet accident survient deux jours après la collision ferroviaire qui a fait 42 morts dans le sud du pays. À Strasbourg, les agriculteurs campent devant le Parlement européen pour protester contre l'accord UE-Mercosur. Les eurodéputés se prononceront aujourd'hui sur la saisine ou non de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis le football, avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG et Monaco battus, les monégasques humiliés 6-1 par le Real Madrid ce soir. Marseille reçoit Liverpool à 21h. Match à suivre sur Canal+.
Merci Christophe, journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Excellent début de journée à l'écoute d'Europe 1. Bonjour avec Alexandre Lemaire, il est 5h52.
Le Club Culture Europe 1, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Alexandre.
Alors vous nous l'avez dit, Nicolas, c'est un roman brillant que vous nous proposez ce matin.
Oui, dans beaucoup de sens du terme, on l'appelait Benny Diamond. C'est le titre aux éditions Les Léonides, signé Michael Dichter. On est à Anvers, dans le quartier des Diamantaires, dans les années 70, et voici Benny Goodman qui se balade. Benny est le fils de Moshe Wiesel, couturier, retoucheur, et très impliqué dans la vie religieuse, et le petit-fils de Yehuda, un grand diamantaire, mais un homme froid, dur, qui s'est éloigné de la religion. Flashback, Benny est très jeune, et son père décide de lui offrir un diamant brut qui se transmet de père en fils. Moshe a quitté le monde du diamant pour se consacrer à l'étude de la Torah, et il est brouillé avec son père Yehuda, mais il sait tailler. Il taille donc ce diamant avec toute la symbolique que ça implique devant son fils Benny et Bobby, et soudain, schlack, le diamant explose sous les outils de Moshe et un fragment s'incruste sous l'œil de Benny.
Ah, ça c'est un signe.
Absolument, il le gardera, et bien des années plus tard, c'est la voie du diamant que Benny choisit, et on le suit dans ce monde hyper fermé des diamantaires, contre l'avis de son père, et sans l'aide du grand-père, et ces deux-là étaient déjà fâchés, donc tout le monde est brouillé maintenant, mais il va se faire tout seul, et ça n'a rien de facile pour commencer d'être accepté dans le milieu des diamantaires d'Anvers.
Bien, c'est un roman, Nicolas, d'apprentissage.
Exactement, avec ce qu'il faut de pièges, d'arnaques, de fausses amitiés, de vraies trahisons, une histoire de transmission aussi, une histoire d'amour qui traverse le roman. C'est l'exploration de la honte aussi, du ressentiment et de la culpabilité. Premier roman de Michael Dichter, par ailleurs scénariste et réalisateur. Et c'est vrai qu'il a une écriture très visuelle et trépidante avec un sens du suspense.
Voilà, on l'appelait Benny Diamond, c'est de Michael Dichter. Merci Nicolas.
Europe 1, bonjour, 5h, 7h, Alexandre Lemaire.
Les meilleures sorties au cinéma, bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
À voir. Cette semaine, d'abord, cette adaptation d'un célèbre livre de Giuliano da Empoli qui balaye 30 ans de politique russe. C'est un film, Laurie, réalisé par Olivier Assayas.
Exactement, c'est le match du Kremlin avec Jude Law ou encore Paul Dano. Alors, le film démarre en 2019 lorsque l'ancien conseiller de Poutine, réfugié dans sa datcha sous la neige, reçoit un journaliste américain auquel il se confie. Il raconte son histoire et surtout comment il est passé d'artiste qui ne rêvait que de poésie à producteur de télé-réalité, puis conseiller homme de l'ombre de Vladimir Poutine.
Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur.
La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique.
Vladimir Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir.
Un film passionnant qui utilise la voix off pour nous plonger dans l'ascension au pouvoir de Poutine. On pénètre dans les arcanes de la Russie post-Union soviétique jusqu'à la veille de l'invasion de l'Ukraine avec une ambition philosophique autour de la question du pouvoir. C'est vrai que le roman était dense, ça donne un film bavard mais fascinant. On n'a pas envie d'en rater une miette et puis surtout, le duo Paul Dano-Jude Law est exceptionnel.
À voir au cinéma cette semaine également, Laurie Choleva, un drame shakespearien.
Sans doute le plus beau film de ce début d'année, le plus poétique aussi, c'est Hamnet de Chloé Zhao, réalisatrice oscarisée pour Nomadland en 2021. Elle adapte ici un roman qui raconte l'intimité de William Shakespeare et sa femme Agnès, un couple traversé par le deuil et interprété par un tandem poignant, Jessie Buckley et Paul Mescal. On est en 1580 en Angleterre. Tous les deux s'aiment intensément dès leur rencontre, bien que très différents. Ils ont trois enfants, dont Hamnet qui va tragiquement mourir de la peste. Et le film nous amène alors au cœur du deuil, comment le traverser, l'accepter, le sublimer à travers l'art pour William en pleine écriture d'Hamlet.
Que voudrais-tu faire, Hamlet ?
Je serai un des comédiens de papa.
Seras-tu brave ?
Oui.
Le cœur de nos enfants bat. Il sourit.
Tu ne te demandes pas ce qu'elle raconte ?
Quoi donc ?
La pièce.
Hamnet, le fils, serait donc l'inspiration pour la grande tragédie Hamlet, l'art comme exutoire, le quotidien pour ne pas oublier, chacun à sa manière, comment est-ce qu'on peut traverser le deuil. C'est un sujet universel finalement, c'est l'une des grandes forces du film. Le film est produit par Steven Spielberg, la musique est sublime. Bref, allez-y, vraiment c'est très beau.
Merci Laurie Choleva.
Et Laurie, on vous retrouve dans Clap, samedi de 18h à 19h sur Europe 1 pour une émission spéciale, émission festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Il est 5h56.
Votre météo, Marion. Dans un très court instant, dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, rendez-vous avec Omblin Roche. Bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Dans votre partition à 6h20.
Retour en 1977 quand Michel Jonas se produit sur la scène du Théâtre de la Ville à Paris.
Alors on regarde les bateaux, on suçait des glaces à l'eau.
Il vient de sortir son troisième album et présente pour la première fois ses chansons à son public. La partition de Michel Jonas dans 20 minutes sur Europe 1.
A tout à l'heure, Amblin, et dans un quart d'heure sur Europe 1, Marion, l'édito de Laurent Tessier.
Oui, Laurent nous parlera de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, hein, qui va auditionner de nouvelles personnalités.
Le temps pour ce mercredi, Marion Gagnon, de la pluie à l'ouest. Et attention, deux départements de Bretagne en vigilance orange.
Oui, vigilance orange, pluie, inondation sur le Finistère et le Morbihan. Et vigilance orange crue également sur le Finistère. C'est vrai qu'on a beaucoup d'agitation avec cette perturbation qui touche le nord-ouest. Les cumuls pourraient atteindre quand même 50 à 60 mm en 24 heures hein, sur ces deux départements. Donc prudence. Ça va également toucher les pays de la Loire et la Normandie. Hein. Vous allez avoir beaucoup de pluie. Et on continue aujourd'hui. Ajoutez à cela un vent fort, 70 à 90, voire 100 km/h en Bretagne. Bref, c'est pas une très belle journée qui vous attend sur le nord-ouest. De la Nouvelle-Aquitaine au centre-Val de Loire, là aussi, il va pleuvoir cet après-midi. Donc en fait, on a tout le flanc ouest du pays qui sera sous la pluie aujourd'hui. En Languedoc-Roussillon, eh bien de la pluie également hein, sur les Cévennes avec les fameuses entrées maritimes qui seront bien présentes aujourd'hui. Mais partout ailleurs, écoutez, ça va être un temps plutôt calme, nuageux quand même. On a des brouillards ce matin, brouillards encore givrants en Alsace-Lorraine et du Val-de-Saône au Lyon. Donc prudence si vous prenez la route. En revanche, cet après-midi à l'est, donc du Jura à la PACA et en Corse également, la retour d'un temps sec avec de très belles éclaircies sur ce flanc est du pays. Côté température, elles seront beaucoup plus douces à l'ouest qu'à l'est. Cet après-midi, vous aurez 4 à Dijon et à Strasbourg, 7 à Annecy, 10 degrés à Lille, Boulogne-sur-Mer et Vesoul, 11 degrés à Manosque et à La Rochelle, 12 à Nantes, Angers et Cherbourg, 13 degrés à Paris et à Limoges, 15 à Marseille, 16 à Tarbes et jusqu'à 17 degrés à Saint-Girons et à Pau.
Merci Marion, soyez les bienvenus, bon réveil avec Europe 1, voici votre journal. Europe 1, il est 6h. Europe 1, bon